Bon, on ouvre, je passe la porte, elle me tire par la manche, elle me dit « Hablas espagnol ?» Et je lui dis « Seguro que vos espagnol ?» Eh bien, je suis tombée sur une mongole qui avait appris l'espagnol à l'université d'Ulaanbaatar. Nous avons bavardé et je viens de recevoir une invitation officielle de la Mongolie extérieure. Alors, vous voyez que chaque coin de rue du grand reportage, vous avez des surprises.
Vous pouvez vous permettre de choisir vos sujets?
Ah oui, tout à
Alors,
fait.
Alors, quels sont les axes principaux?
Femmes, la paix et quand même les pays d'islam.
Pourquoi?
Parce que ça me semble le défi ultime comme femme, d'aller me promener dans les pays d'islam et essayer de comprendre, essayer de voyager. Et je l'ai fait, j'ai fait le Yémen toute seule pendant 5 mois.
Ouais.
Pas tout à la fois, mais j'ai fait 5 fois, 1 mois. Et puis moi, je sais pas, j'ai un amour-haine pour cette région du monde. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, n'est-ce pas, comme les passions.
Au départ, c'est un défi presque personnel.
Oui, au départ, c'était un peu ça. Mais je finis par croire que quelque part, j'ai dû peut-être naître ou vivre au Moyen-Orient, ou en tout cas en Orient. Je connais bien l'Afrique, j'étais en Amérique latine, ça ne m'attire pas.
Et lorsque justement on parle à ces femmes de Moyen-Orient qui ont une réalité tellement différente de la nôtre, est-ce qu'on n'a pas tendance à essayer de leur dire oui, mais il y aura peut-être une autre manière de vivre ?
Certainement, on a très envie de faire du prosélytisme féministe. Et il faut tout le temps se brider en se disant qu'après tout, elles vivent presque, je ne vais pas dire une autre planète, mais dans un autre système et un autre jeu. Alors nous serions complètement perdus, mais elles ont des règles du jeu sociaux qui sont différentes des nôtres. Elles ont leur système de défense. Alors tant qu'elles n'ont pas une autre approche et puis un autre système, je crois que c'est très dangereux d'arriver comme ça, comme un pachyderme dans un magasin de porcelaine. Je me souviens très bien les femmes du Yémen me disant, écoute, bon, on coûte cher parce qu'on les vend, n'est-ce pas, là-bas, ces femmes-là. Elles peuvent coûter jusqu'à 100 000 francs suisses. Une jeune vierge peut coûter jusqu'à 100 000 francs suisses. Mais elle me disait, écoute, si on nous l'enlève ça, que nous n'avons aucun moyen financier, que nous ne pouvons pas participer à la vie économique, nous n'avons pas d'indépendance économique, il faut que le pays ait assez avancé pour que nous puissions demander autre chose. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. De parler avec ces femmes du Yémen, parce qu'elles, elles sont vraiment très retardées, c'est pas le mot, c'est un autre monde, mais enfin, elles vivent encore comme il y a des siècles.
Au grand reporter, alors on a la notion d'aller toujours au loin, chercher des informations, informer les autres, et puis en Suisse.
Mais écoutez, en Suisse, il me semble qu'on sait un petit peu de... Remarquez, c'est pas vrai ce que j'allais dire, qu'on sait beaucoup ce qui se passe. Parce que j'ai été parfois en Haut-Valais, et je me suis dit, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au Yémen pour voir des femmes qui vivent vraiment d'une façon incroyable. Mais je sais pas, moi je vous dis, j'aime l'Orient. J'aime l'Orient, peut-être que j'ai besoin d'exotisme. Puis j'ai besoin de partir aussi. J'aime aussi le fait d'aller d'un endroit à l'autre qui est lointain. J'aime le voyage, j'aime les différents paysages. Et puis à l'intérieur aussi, je pense qu'il y a tout un changement intérieur en moi aussi quand je voyage. Si je vais en Suisse, je change peut-être moins.
Vous avez l'impression d'être différente lorsque vous êtes au Moyen-Orient qu'en Suisse?
Oui, quelque part.
À quelque...
Oui.
Où?
Je me sens peut-être plus mystique. Ici, je n'arrive pas à me sentir mystique. Par exemple, quand j'entends des cloches ici, des cloches d'église, ça ne me fait absolument rien du tout. Mais je me souviens des aubes au Yémen, avec la voix du muezzin qui appelle à la prière, avec cette aube violette qui monte, cette voix humaine qui a des montagnes là-bas, qui se donne de montagne en montagne. C'est quelque chose qui me bouleverse.
Vous pensez apporter une nouvelle vision?
J'aimerais. J'ai toujours essayé. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai reçu ce prix.
Mais en même temps, votre livre, La guerre à deux voix, ce ne sont que des témoignages. Enfin, c'est très important parce que c'est des témoignages. Mais vous nous livrez là des sources brutes. Vous n'y avez pas ajouté énormément d'analyses, après, soit politiques, soit
sociologiques. Non, j'estime que l'analyse politique et sociologique, il y en a plus qu'on en a besoin. que n'importe qui peut s'asseoir dans une université, aller chercher dans des fichiers, faire des analyses, etc. Moi, je pense que rien ne remplace des témoignages qui sont bruts, justement, et qui rapprochent tellement les humains les uns des autres. En se disant, tiens, c'est comme moi. Ah, tiens, cette femme, elle est au bout du monde, et puis elle dit la même chose que j'aurais dit. Tiens, elle est comme moi. Moi, je crois... Pour la paix, je pense que c'est une toute petite pierre à amener, je pense justement que c'est ça, en fait, c'est ça pourquoi je suis faite. Des analyses, bon, écoutez, il y en a beaucoup, je veux bien vous en faire, si vous voulez. Et on m'en demande tout le temps, et j'ai toujours l'impression de dire des choses pas inutiles, mais presque. Et pour moi, de décrire un enfant à Beyrouth qui n'a plus de bras... Et plus qu'une jambe broyée et qui est aveugle parce qu'il a sauté sur une mine, pour moi c'est plus important que toutes les analyses du monde.
Parmi vos récents reportages, il y en a un qui vous a particulièrement marqué.
Oui, récemment, donc, je suis allée au Moyen-Orient pour faire le film sur le livre, mais avant, j'avais fait 15 jours seule en Iran. Et journaliste femme seule en Iran, et c'est une expérience tout à fait inoubliable. Et si vous me demandez des images que inoubliables, eh bien j'ai eu l'insigne honneur de visiter Evin, la prison politique de l'imam Khomeini, dont Amnesty parle sans arrêt. Et d'une façon qui serait trop longue à vous raconter ici, mais enfin j'ai pu visiter Evin. Eh bien, j'ai pénétré dans une sorte de citadelle, si vous voulez, enfin, une sorte d'ensemble de bâtiments. Et une vision que je n'oublie pas, c'est tout à coup, au moment où j'étais avec les pasdaran de la Révolution, qui m'encadraient avec la jeep armée jusqu'aux dents, et mon interprète, devant la porte de la prison, la porte s'est entrouverte et tout à coup est sortie une femme en tchador. Et cette ombre noire a regardé à gauche, à droite. Et en face d'elle, de l'autre côté de la route, il y avait un vieux monsieur avec une voiture qui attendait. Et ça devait être son père. Et cette femme a regardé à gauche, à droite, et lui a regardé... La fixer, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, sous cet accoutrement, est-ce qu'il ne pouvait pas la reconnaître. Tout à coup, il l'a reconnue. Et je vois encore cette scène de cette femme avec ses voiles noires qui s'est précipitée dans les bras de cet homme en hurlant et le père en sanglotant. Et il l'a enfourné dans la voiture et ils sont partis à toute vitesse. Et vous savez, la mémoire est étrange, mais il y a comme ça des visions qui sont extrêmement fortes et qui vous restent, qui sont bouleversantes. Et après, à l'intérieur de cette prison, depuis la première minute où j'ai pénétré dans cette prison, j'ai été filmée par deux caméras vidéo pour évidemment pouvoir après repasser tout ça et surtout repasser les expressions et les mouvements des prisonniers qu'on m'amenait, qu'on me présentait. On m'a notamment amené sortie des cellules deux femmes qui vraiment m'ont déchiré le cœur, qui étaient complètement des statues noires, qui récitaient devant le micro et toute une sorte de litanie qu'on leur avait dit de raconter. Et j'ai eu par moments l'impression tout à fait, devant toute cette mise en scène, parce que c'était une colossale mise en scène, de revivre certains moments que j'ai lus, par exemple, de... que le CICR a vu à Theresienstadt en 1944, quand on avait fait une mise en scène, n'est-ce pas? On voyait des footballeurs, on levait des déportés tout contents, avec des géraniums sur les fenêtres. Et j'avais un peu l'impression qu'il se passait des choses et puis qu'on me les cachait. Voilà, ça, c'est une impression très profonde.
Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une prison comme ça?
Qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une prison comme ça? On rentre à l'hôtel et on prend une douche bouillante et on a... Et moi, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je me suis dit, pourvu que je n'ai pas un cauchemar. Je me suis dit, il faut que... J'espère que je ne vais pas avoir un cauchemar. Je n'ai pas eu de cauchemar, d'ailleurs. Mais pour aller plus loin, après ce voyage en Iran, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et ça m'a beaucoup changé. j'ai réalisé combien on ne peut pas envoyer des boomerangs sans qu'ils vous reviennent un jour sur la figure. Et n'est-il peut-être pas le candide de la part de l'Occident de croire qu'on pouvait vendre éternellement des armes à ces pays-là et qu'un jour, ils n'allaient pas se réveiller et nous les rendre et se révolter et les utiliser, ces armes. Mais enfin, que ce soit des armes militaires ou que ce soit des armes de la télévision et de toutes les techniques. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, parce que après je suis allée directement de Téhéran, je suis allée après à Paris, je me vois encore remonter les Champs-Élysées avec Pierrette Rosset de Elle, qui est la directrice littéraire. Et je disais, Pierrette, mais est-ce que vous voyez tout ça, tout ce néon, toute cette pornographie, toutes ces femmes qu'on avilit, toutes ces images horribles où on voit des femmes dont on enfonce, n'est-ce pas, des mitraillettes entre les seins, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous nourrissons cette guerre islamique avec tout ça? On tend vraiment les verges pour se faire battre, parce que là-bas, tout le temps, tous les slogans, évidemment, pour monter le peuple, pour le... C'est cette image de cet Occident dépravé.
Et puis vous qui étiez là-bas, vous avez vu ça, justement vous êtes témoin de quelque chose, est-ce que vous pouvez le retransmettre?
Ben écoutez, je suis en train de vous le retransmettre un tout petit peu aujourd'hui, mais il est certain que l'ambiguïté du grand reporter, surtout quand il va dans des zones aussi dangereuses pour lui et pour les autres, ce qu'il a rencontré, mais surtout pour lui, c'est que évidemment il ne peut pas tout dire. Et à la fin, nous devenons. Je crois devenir une virtuose de la suggestion, de l'euphémisme, de la litote. Et il est certain que mes lecteurs francophones qui peuvent comprendre les allusions comprennent ce que je veux dire. Mais je pense qu'à la première dimension. C'est tout un art, finalement. Et je me souviens une fois une conférence à l'école de journalisme à Lausanne où des jeunes gens me disaient « Enfin, vous n'avez pas de courage, alors vous allez là-bas et vous ne dites pas tout. » Je dis « Mais est-ce que vous savez dans quel monde nous vivons? Vous voulez que je sois enlevée, kidnappée? C'est pas aller à Copé ou à Versoix, hein, pas aller se promener à Téhéran. » Je crois que les gens ne se rendent pas compte non plus.
Mais en même temps, alors, on n'aimerait pas mieux ne pas y aller pour pas avoir l'impression de ne pas pouvoir tout dévoiler.
Ah ben, moi pas, parce que j'estime que si des reporters comme moi ou comme beaucoup d'autres, nous ne disons pas ces choses-là, personne ne les dira jamais. C'est comme ces femmes-là, que si moi je leur donne pas la parole, personne ne leur donnera. En tout cas pas dans leur pays, donc personne ne leur donnera.
C'était Laurence Deona qui vient de recevoir donc le prix de l'UNESCO à Paris. L'agenda de Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8, nos rendez-vous, nos informations. Cet après-midi, 23 septembre, le Centre de loisirs des Astères vous invite à son T-Contact. Il présentera un audiovisuel, Parabole du désert. Ce soir au club universitaire de rue Coladon, Madame Anne-Marie Kepli fera une conférence avec pour titre « Histoire féministe en Suisse romande à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ». Nous avons appelé Madame Kepli. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu le contenu de votre conférence?
Oui, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, j'aimerais bien parler de plusieurs choses aussi, vu que probablement le public sera assez varié. Tout d'abord, j'aimerais peut-être parler pendant une heure pour montrer quelles ont été les conditions de ma recherche historique, puis donner un aperçu général sur les grandes lignes de ce que moi j'ai appelé la recherche du féminisme à la fin du 19e, début 20e siècle. Donner un peu des détails, peut-être surtout sur deux femmes qui ont été très importantes dans cette période. C'est Josephine Butler, la féministe anglaise qui a amené la lutte abolitionniste féministe en Suisse romande, et une autre suissesse qui a relayé cette lutte, c'est Emma Pieczynska. Et à partir de là, éventuellement, on pourra aussi parler des présupposés qui sont sous-jacents à ma recherche, c'est-à-dire quelle position féministe sous-tend une telle recherche, faire éventuellement le lien avec l'aujourd'hui, parce que la même lutte a été renouvelée par un atelier à Rotterdam en 1983 qui s'occuper de constituer un réseau contre l'esclavage sexuel des femmes. Donc, même si c'est un travail historique, j'aimerais qu'il résonne sur ce fond actuel.
J'aimerais vous demander si vous pensez donc aux féministes suisses romandes du début du siècle, qu'est-ce qui vous frappe le plus ?
Bon, je crois, là, je dois dire qu'à un moment donné, ce qui m'a choqué presque, c'est leur discours très moral. Mais il fallait aller au-delà de ce discours de la morale et voir ce qui se cache derrière. Et c'était une manière pour les femmes de pouvoir entrer dans la civilisation, dans la culture, d'être aussi pas seulement pris au niveau de la nature, mais aussi au niveau de la culture.
Je vois que cette conférence est organisée conjointement avec la section genevoise de l'association Femmes, Féminisme et Recherche. Vous pouvez peut-être nous dire deux mots sur cette association ?
Oui, en effet, c'est à la fois Femmes, Féminisme et Recherche et les femmes universitaires qui convoquent pour cette soirée. Mais je crois que c'est dans la ligne de ce que Femmes Féminisme Recherche a fait ces dernières années. La première fois, cette association suisse était visible en Suisse romande par un congrès organisé en novembre 84 dans les locaux de l'Université de Genève. C'était une sorte de parade de tout ce qui existe en recherche féministe en Suisse. Ces deux dernières années ont été marquées surtout par la lutte contre la discrimination des femmes dans l'institution universitaire et dans la recherche. Et on a chaque mois, le premier mercredi du mois, à la Taverne de la Madeleine, un networking lunch qui est ouvert à toutes les membres de l'association, ainsi qu'à des femmes de l'extérieur qui s'intéressent à notre travail. C'est un peu par cette structure-là que nous essayons au niveau genevois et même lausannois aussi, rester en contact et penser nos futurs projets. Je peux vous donner l'adresse pour celles qui s'intéressent, où elles peuvent nous contacter à Genève.
Volontiers.
C'est donc Association Suisse Femmes Féminisme Recherche, case postale 133 12 11 Genève 9. Et peut-être encore une chose qui pourrait aller au-delà de cette soirée d'aujourd'hui, ça peut être une annonce que j'aimerais faire à celles qui s'intéressent à l'histoire des femmes en Suisse, parce que on aura au mois d'octobre à Bâle la 4e rencontre des historiennes suisses. Et il y aura pendant 3 jours, du 23 au 25 octobre, des présentations, des travaux qui touchent à l'histoire des femmes en général en Suisse, autant du côté romande que du côté suisse-alémanique.
Madame Kepli, je vous remercie pour toutes ces informations et j'invite donc toutes et tous à venir assister à votre conférence qui a lieu mercredi 23 septembre 87, donc à 20h15 au club universitaire de rue Colladon. Et le titre donc de votre conférence est « Histoire féministe en Suisse romande à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle ». Merci.
Au revoir.
Au revoir. Un appel qui est fait à tous les Suisses et tous les Français, appel à manifester pour l'arrêt définitif de Malville nucléaire.
Et c'est très important donc d'aller à cette manifestation qui aura lieu samedi 26 septembre à 14h à la douane de Moelsula, c'est-à-dire au terminus du tram 12. Puis aussi pour essayer de donc faire cesser l'action et de Malville nucléaire. Le Parti écologiste Genevois et ses sections vous invitent le 26 septembre dès 16h à la salle communale de Confignon en présence des candidats aux élections nationales. Il y aura de la musique, un souper, une animation. Donc l'entrée est libre et c'est une invitation du Parti écologiste Genevois. J'ai d'œuvres, tableau chorégraphique sur toile musicale. C'est un spectacle que propose l'Institut Jacques Dalcroze. Nous avons au téléphone Sandrine Bourdi. Bonjour.
Bonjour.
Donc, ce spectacle a lieu ce soir. J'ai d'œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler quelque peu?
Oui. J'ai d'œuvres, c'est un spectacle monté par des étudiants qui, en fait, essayent de faire partager leur création musicale et corporelle à un groupe, à un public plus large que les simples habitués de l'Institut Jacques Dalcroze. Et puis aussi parce qu'on avait envie de changer une image stéréotypée de Jacques Dalcroze qui était sautillé plus tambourin et gna gna gna. Et on avait envie de montrer ce qu'on savait faire. En dehors de ça.
Alors justement, tableau chorégraphique sur toile musicale, il s'agit de quoi?
Mais c'est 12 tableaux, c'est des œuvres très variées, très différentes les unes des autres, qui consistent, enfin, je peux vous donner des exemples.
Oui,
par exemple, une de nos œuvres qui s'appelle Ursule, qui est on a cherché une union entre la danse, le théâtre et la musique. Et alors on a créé des, en fait, les musiciens sont sur scène et dansent en même temps, évoluent, font les décors avec leur corps, on a créé une petite histoire comme ça avec ce spectacle. Je vais peut-être vous passer une étudiante qui va mieux vous en parler.
D'accord, merci.
Alors, moi, c'est Véronique Boucher.
Bonjour.
Bon, il y a juste une chose que je voudrais préciser, c'est que c'est pas l'Institut qui organise ce spectacle, c'est vraiment un groupe d'étudiants, c'est pas l'Institut au complet. C'est vraiment un groupe d'étudiants qui a décidé de faire un spectacle en dehors des spectacles traditionnels, parce qu'il y en a toujours un en décembre et au mois de juin. Et là, c'est vraiment un spectacle en dehors, complètement, qui est créé par des étudiants. Ça se passe à l'Institut, mais c'est par un groupe d'étudiants, c'est pas l'Institut qui organise le spectacle.
Et donc, vous aussi, donc, vous avez participé à la préparation de ce...
Oui, oui. Alors, moi, je fais partie de ce groupe. Et on est peut-être la moitié de l'Institut à participer à tout le spectacle en tant que, musicien et danseur sur la scène. Mais bon, on est plus ou moins tous là, de toute façon, sur la scène. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est... ça s'appelle jet d'œuvre parce que c'est des numéros différents qui n'ont pas nécessairement de rapport l'un avec l'autre. Alors ça dure quelques minutes chaque fois. Et il y a de tous les styles. Là. Bon, Sandrine nous a décrit un numéro qui s'appelle Ursule et qui est comme une espèce de petit conte en lui-même. Il y a des numéros très différents ou qui sont faits sur des musiques déjà... des musiques sur bande, ou bien des musiques qu'on fait nous-mêmes, qu'on fait sur la scène. Il y a un autre numéro qui est fait, qui est inspiré de bâtiments d'architecture, par exemple. Alors, c'est une démarche complètement différente que l'autre, parce que tout se passe au niveau poétique. Et puis celui-là de l'architecture, ben, c'est une démarche complètement différente. La musique a été créée à partir de plans, au lieu d'être partie comme ça de...
d'inspiration.
Ouais.
En tout cas, je vous remercie de ces précisions. On peut donc redonner le rendez-vous. Ce sera le 23, le 25 et le 26 septembre,
oui,
à 20h30 à l'Institut Jacques Dalcroze,
oui,
44 Terrassière à Genève. C'est ça. Et puis nous y serons. Alors, bonne chance.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
toujours, si vous avez envie d'aller au spectacle, n'oubliez pas que certains spectacles qui ont déjà eu lieu dans le cadre du Festival du Bois de la Bâtie continuent, comme Rumeur, par exemple, ou encore Macbeth, mise en ombre par Marcel Robert, et encore La Contrebasse de Patrick Suskind. Le Memento de Ménage-toi, c'est fini pour aujourd'hui, mais quand même, nous vous rappelons la manifestation pour l'arrêt définitif de Malville Nucléaire, le surgénérateur de Malville, un risque inacceptable. Allez manifester à la douane de Moelle-Sulla, samedi 26 septembre à 14h. C'est au terminus du tram 12. Ménage-toi pour aujourd'hui, c'est terminé. On a peut-être un peu beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a des sujets qui nous préoccupent et dont on pourrait des fois parler toute la journée. Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. C'est une émission proposée par le Collège du Travail de Genève et réalisée aujourd'hui par Alda, Catherine et Marianne. Ménage-toi, c'est toujours une émission en direct tous les mercredis de 10h à 12h. Ménage-toi dans Onde Femme, une radio pour elle sur Radio Zone 93.8. Et Onde Femme, c'est aussi une émission le soir, Radio Pleine Lune de 18h à 22h. Onde Femme, une radio pour elle tous les mercredis sur Radio Zone 93.8. Pour ceux qui désirent nous réécouter, cette émission repassera en différé cet après-midi dès 14h.
Malheureusement, cette émission n'avait pu être repassée en différé pour des raisons techniques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez réentendu l'émission du 23 septembre sur la contraception et notre rencontre avec Laurence Déonard.